France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Du jour au lendemain, la pluie d'été de Marguerite Duras par Alain Weinstein en 1990. La pluie d'été est un récit déjà offert dans A. Ernesto, un livre commencé en 1970 et porté à l'écran en 1984 à travers le film Les Enfants. Issu d'une famille nombreuse et pauvre, Ernesto est un enfant surdoué qui ne veut pas aller à l'école. Le père et la mère ont découvert, en lisant un livre sur la vie de Georges Pompidou, que toutes les vies se ressemblent, sauf les enfants. Retrouvez Marguerite Duras dans cet entretien avec Alain Weinstein. Elle évoque la ville de Vitry-sur-Seine qui la fascine, où, dit-elle, elle voit s'accomplir le mélange et où elle a écrit « La pluie d'été ».
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. On comprend d'abord un petit peu, quelque chose, et puis tout. Au début, c'est lent, et puis un jour, on comprend tout. C'est d'un seul coup. C'est foudroyant. Du jour au lendemain, avec Marguerite Duras, dont le nouveau livre, La pluie d'été, est publié chez POL.
J'ai toujours tout à dire. Toi aussi, non?
Ouais. Ta voix, alors? Tu m'as dit au téléphone que ta voix avait changé.
Oui, enfin, forcément, puisque j'ai une canule. Mais j'ai mes cordes vocales. Donc le ton, il devait y être.
Est-ce que ça change quelque chose dans l'écriture? Un changement de voix?
Peut-être un progrès. Un progrès peut-être. On est plus silencieux quand on a cet appareil. Ben, c'est quand même un peu fatigant de parler. Très très peu. Au bout de 10 minutes, je ne suis plus fatiguée. Mais j'étais muette pendant des mois, puisque j'avais pas de canule. Et je m'en ressens encore.
Mais c'est très étrange comme le livre, La pluie d'été, est tout de même aussi obsédé par la voix.
Tu trouves ?
Oui.
Je vois pas.
Il y a toujours... on entend toujours ta voix dans tes textes. Mais
ah,
là,
oui.
Là
oui.
On entend ta voix, mais on a l'impression aussi que tu as voulu chaque fois faire entendre les voix de ces personnages.
Eh bien, moi, je les entends pas quand ils parlent. Sauf Ernesto. Pourtant, dans le film, ils ont des voix sublimes, tous, sublimes. Tatiana Mouquine, la mère, c'est inoubliable. Et Daniel Gelin, le père, qui a pas vu le film. Et le petit Axel Bogolowski, qui fait Ernesto. La petite, c'est Martine Chevalier, oui, c'est ça. Et bien, j'entends ma voix.
Mmh. Tu n'es pas, quand tu écris, tu n'entends pas des voix.
J'entends la mienne. Mais je l'entends en lisant. J'entends en écrivant. Et souvent, je me dis, tiens, on a parlé. Là, il y a quelqu'un de parole. Il faut que je me souvienne ce qui a été dit. Je crois que c'est les choses apparemment les plus étrangères qui sont les plus personnelles.
Une écriture complètement désincarnée, c'est pas possible.
Pourquoi écrire ? Désincarnée, sans auteur. Oh ben, c'est-à-dire que les mauvais livres, c'est ça. C'est des livres sans auteur.
Non, parce qu'il y a eu tout un moment où on nous expliquait qu'il fallait écrire comme ça. Uniquement travailler la langue et que c'était...
Tu penses à l'école du nouveau roman ?
À bien des écoles que tu as connues, comme moi.
Mais j'en fais pas partie.
Non.
C'est eux qui disent que j'en fais partie. C'est des hommes d'affaires. Quand les gens ont du succès, ils disent ça aussi, c'est le nouveau roman. Mais je marche pas, moi, je marche. C'est Recueillet qui m'a fait croire ça un jour. Je rigolais.
Alors on va revenir à La pluie d'été, ce nouveau livre. Parce que c'est un livre qui a toute une histoire. Bon, tu parlais du film. Et en effet... Il y a eu plusieurs étapes avant que le livre trouve sa forme, qui est celle qu'on peut lire aujourd'hui. Il y a eu en 71 un livre pour enfants, paraît-il.
Oui, tout petit, oui.
Voilà, qui s'appelait A. Ernesto. Et c'était l'histoire d'un petit garçon qui, comme les personnages du livre d'aujourd'hui, refusait d'aller à l'école parce que c'est pas la peine.
Oui.
Et puis ensuite, il y a eu le film en 84, celui qu'on connaît sous le titre
Les enfants.
Les enfants. Et, qui est un film qui n'a pu se tourner que grâce à l'aide du ministère de la Culture, parce que c'est pas facile de faire du cinéma aujourd'hui.
De Jacques Lang, oui.
Oui. C'est même pratiquement impossible de faire du cinéma maintenant.
Oui, puis alors j'ai eu des difficultés terribles après, avec les producteurs.
Mais ce qui est intéressant tout de même, c'est que longtemps, pour toi, le film était la seule façon de pouvoir raconter cette histoire.
Et ça agit en sens inverse. D'habitude, c'est un récit, c'est une histoire, c'est un livre qui donne envie de faire un film. Et là, c'est le film qui m'a donné envie de faire un livre. Puis c'est trop dommage de rester à ce stade... forcément réduit, quoi, de l'histoire. J'ai commencé à voir les lieux, à les revoir. Je suis allé 15 fois à Vitry. Yann, il voulait plus marcher à la fin. Il voulait plus y aller. On connaît Vitry comme notre notre patrie.
Mmh. Et pourtant, c'est difficile de s'y retrouver.
Oh, j'ai beaucoup de mal.
On peut s'y perdre.
L'autoroute, il a été détruit. Mais c'est magnifique. C'est un lieu magnifique. Tu connais, non?
J'y suis passé.
Le port à l'anglais.
Mais je connais mieux Venise ou oui. Rio de Janeiro que Vitry.
Tu as tort.
Mmh. Mais alors, à quoi ça tient, cette fascination de Vitry, sur toi?
C'est les populations. Le quart monde, comme on dit. C'est fabuleux. L'accomplissement du mélange. C'est l'air radieux, si tu veux. Elle est atteinte. Ça m'émeut quand je pense à ça.
Mmh.
Elle est atteinte, là, vraiment. Il y a de tout. Des blacks, des un peu blacks, des très blacks, des très blancs, puis des gens un peu moins. Et ça roule bien.
C'est nulle part, c'est pas repérable.
Non, c'est Vitry. Tu sais, tu connais le Calcutta Point. Bien, l'inverse de ça.
Hmm.
Tu connais pas, toi. C'est quand un lieu comme Calcutta, le Caire, atteigne un degré tel de dégradation, de saleté, qu'on ne peut plus réparer. On abandonne, on ne peut plus réparer. Calcutta, ils ne le refont pas. Ils rebâtissent à côté.
Et toi, ça t'attire un lieu terrifiant comme ça parce que...
Mais c'est pas terrifiant. Non, l'idée m'attire beaucoup.
Oui.
Je la trouve juste. Il fallait l'inventer. Eh bien, elle s'est inventée. Mmh. Vitry, c'est une réussite. C'est ça que je veux dire. C'est le paradis point, si tu veux.
Ça serait pour un écrivain d'aujourd'hui le royaume du Danemark?
Pourquoi tu penses au Danemark?
Parce que je pensais à Shakespeare.
Hamlet.
Oui.
Non, mais... Non, c'est le contraire, là. Mais je vois pas. Je vois pas la relation.
Est-ce que un lieu comme Vitry nous renseigne aujourd'hui sur l'état du monde, de l'humanité?
Oui. Solutionné, comme on dit. Solutionné. Il y a une sorte de coexistence de l'immeuble, de la foire, de la place, des places, des églises et des populations. Ça gouille, Vitry, qui est unique. Tu sais, on sent quand une ville est paisible. C'est surpeuplé, c'est paisible. Hier, j'étais voir Créteil. C'est très beau, Créteil. Tu connais? Ah, il faut le voir, il faut le voir. Mais ça n'a pas... C'est moins proche.
Mmh.
C'est moins sensible.
Qu'est-ce qu'il y a de beau à Créteil?
La nouvelle ville. Et le lac.
Mmh.
Tout est neuf. C'est un New York, mais dispersé. C'est extraordinaire. C'est immense, immense.
Et tu crois que si tout est neuf, tout est possible?
Je ne sais pas. J'écrirai jamais rien là-dessus. C'est pas la peine.
Parce que tout de même dans...
Et fatto, comme on dit. C'est fait.
La banlieue de Vitry, que tu t'es mis à aimer, il y a ce caractère indéfinissable, introuvable. Hein, c'est toi-même qui l'a dit.
Personnel. Marc, non, j'ai fait Vitry.
Je ne trouvais pas d'endroit. Inventé. Tu l'as inventé.
Je ne trouvais pas d'endroit, c'est mon marché. Pour tourner la cuisine. Les enfants.
Mm.
Et on m'a proposé une maison. À Vitry. À Vitry, c'est ça. Parce qu'il y a Ivry à côté, pardon. À Vitry, j'y suis allé. Et quand j'ai fait le roman, c'est ça qui m'est revenu.
C'est un endroit où on a le sentiment que le monde va à sa perte.
Une perte, il va toujours à sa perte. Mais là, elle est commune. Commune à tous. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas Bouygues. Il n'y a pas Servan Schreiber. Il n'y a pas ces monstres du fric, tu vois. Personne de ces gens-là ne viendrait à Vitry. Qu'est-ce qu'ils feraient? Ils auraient peur, peut-être un peu.
Parce que...
Alors on est tranquille. On est tranquille de ce côté-là. C'est beaucoup.
Bon, il y a évidemment une question. C'est si le monde va à sa perte, bon, comme tu sembles le répéter, y compris dans ce dernier livre.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, tu le dis pas, mais on le sent.
J'ai dit d'en détruire, dit-elle.
Tu l'as dit aussi pour présenter.
C'est un sale politique.
Voilà, tu l'as dit, mais pour présenter le film,
le camion.
C'est ça, hein, oui. T'as dit que le monde aille à sa perte, qu'il aille à sa perte, c'est la seule politique.
Oui, c'est ça que je te dis.
Oui.
Que le monde aille à sa perte, c'est la seule politique.
Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui vaut la peine?
Rien et tout.
Rien et tout, c'est pareil.
Oui. C'est beaucoup plus près que tout, et un peu moins.
C'est-à-dire, quand on veut tout, on n'a rien. Mais quand on n'a rien, est-ce qu'on a tout?
Oui. Les enfants ont tout. Et les gens qui ne le savent pas ont tout. Le phénomène de la fortune, c'est un phénomène qui me frappe beaucoup. Parce que j'ai beau gagner de l'argent, j'ai quand même une longue période de ma vie sans fric. Les gens les plus séparés de nous, les gens qui dirigent les pays du monde, tous les pays du monde, la France, aussi. C'est des gens qui sont privés de vie intérieure. C'est obligatoire. Ils aiment leurs enfants. Ils ne peuvent plus du tout juger, pas du tout, du tout, du tout, de la portée de leur comportement. Ils ont un discours forcément obscène dans la vie. Ces espèces d'hommes morts, alimentés par le fric.
Mais dans ton cas, alors, ce fric dont tu parles, est-ce que avoir du fric, ça donne de la valeur à ce qu'on écrit?
Ça n'a rien à voir. Mais... Non, ça empêcherait.
T'écris de la même façon aussi.
Ça empêcherait. Tu parles de moi, là. Non, j'ai pas du fric à ce point-là, quand même. Faut pas que ça me dénature.
Mais quelquefois, on entend dire, quand même, qu'il y a des livres de toi qui font des scores terribles, enfin, des best-sellers comme on n'en voit pas. Vous voyez, là, il y a une espèce de, derrière nous, là, de courbe, comme si, on en trouve dans les bureaux de technocrates. C'est la courbe des ventes de l'amant. Hein, c'est terrible.
Ça m'a fait du bien, en tout cas. J'ai été très frappée par le pont qu'on a fait pour aller à l'île de Ré. Tu te souviens de l'histoire?
Oui, je me souviens.
Oui, il n'avait pas l'autorisation.
Oui.
On l'a sommé d'arrêter. Il n'a rien entendu. Rien écouté. Il a fait le pont. L'île de Ré est foutue. J'ai envie de dire... Le président de la République, c'est aussi Bouygues. Je sais pas pourquoi je m'acharne sur ce malheureux. Les autres, je les connais pas. Je les vois à la télé. Mais tu accordes beaucoup d'importance à l'argent que j'ai gagné.
Non, c'est toi qui en parlais de l'argent.
Mais oui, j'en parle parce que tu me parles de Vitry. Mmh. Comment veux-tu que je te parle de Vitry sans parler du fric qui l'entoure?
Oui. Parce que Vitry, c'est un trou dans le fric.
Mais c'est parce que je pouvais pas payer non plus. J'avais pas là les ventes là à ce moment-là de l'avant. Mmh. Heureusement, parce que tout y serait passé. Mmh. Donc les producteurs que j'avais. Ben, je suis allé dans un endroit pauvre.
Alors justement, moi je te posais la question, qu'est-ce qui vaut la peine, hein? Et au moment où tu présentais le film Le Camion, c'est-à-dire en 77, tu disais, il faut faire le cinéma de la connaissance de ça, plus la peine. Bon, et ça ne vaut
déjà,
plus la peine,
j'ai dit ça.
C'est aussi une phrase que prononcera Ernesto.
Oui, j'ai pas dit plus la peine. Au camion.
Dit plus la peine.
Ah bon?
Ouais.
Je le dis, j'ai dû le dire toute ma vie, ça.
Ouais. Et alors justement, ton personnage, Ernesto, il a cette connaissance-là.
C'est ça. Ce qu'il refuse, Ernesto, c'est le savoir. Le savoir ne remplace jamais la connaissance. Si tu veux. Est-ce que les gens pauvres ont ces femmes qui élèvent les gosses? C'est la connaissance. Et ces hommes qui sont forcément des politiques. Le marxisme est une connaissance plus qu'un savoir.
Donc tout est là. Tout est là,
tout est là,
une fois pour toutes.
Oui, que n'a que du savoir. Tu vas croire que c'est une passion. Oui. Cite-moi un autre, je peux bien te citer.
Il faut dire que c'est un bon exemple.
Oh, c'est phénoménal. Moi, il m'a dérangé ma vie.
Alors,
on est loin du livre.
Peut-être pas tant que ça. On n'est pas à Vitry, ici, hein.
Mais tout ce que je peux te raconter, je l'explique maintenant.
Oui.
Mais en aucun cas, je n'ai réfléchi avant.
Mais on sent bien...
Je suis allé naturellement vers ce lieu.
Oui. En lisant La pluie d'été, on sent bien que c'est un livre qui est complètement écrit dans l'urgence. Hein, comme si à ce moment-là, tu étais possédée par ce roman.
Oui.
Enfin, je dis ce roman, c'est peut-être pas un roman d'ailleurs.
C'est un roman. Complètement. Tout est inventé, sauf Vitry.
Mm. Et l'urgence, ça serait peut-être pour toi et donc...
Par les deux.
Ne pas les abandonner.
Oui, folle d'amour pour eux. Les enfants. Mm. Les enfants de banlieue, c'est quelque chose. Fantastique, enfin. Mais il n'y avait rien de construit, si tu veux. Mm.
Mais alors cet amour...
Tu as remarqué une différence. Il y a un enfant dans les... Il y a deux enfants dans le film. Il y en a cinq, là.
Oui.
Et deux, sept.
Ça fait beaucoup d'enfants.
Ouais. Trop.
C'est beaucoup pour toi.
Il y a toujours trop dans les banlieues.
Mais cet amour dont tu parles...
Oui.
C'est pas
rien. Cet amour-là, c'est ma position politique depuis toujours.
Mm. Voilà. Alors, est-ce que tu peux dire...
C'est mon inscription au PC. Mon militantisme, c'est la résistance aussi.
Mm.
Voilà, je n'ai pas bougé. Je suis marxiste encore. Mais je dis que... Que ça suffit plus. Que la... Comment dirais-je, la... Le règne de l'homme sur l'homme, la justice majeure, elle ne peut plus durer. Mais ce qui la remplacera, c'est la politique de marché.
Mmh.
Et ça, c'est épouvantable.
Alors, est-ce que tu peux dire, à partir de là, que ça vaut plus la peine?
Mais je ne vois pas comment va aller le monde sans autre politique que celle du gain. Sans une morale politique. L'être le plus moral que je connaisse, politiquement, c'est François Mitterrand. Mais à force de parler de la démocratie, il ferait qu'il la précise.
Mais quand on est au pouvoir, on n'a pas le temps.
Il prend le temps, François. Il le prend. Il m'a téléphoné ici. Là, pour me... Je trouve ça fantastique d'être pris comme lui. Et de téléphoner à des amis, des copains de résistance. Quoi. Je suis allé voir mon mari aussi. Plusieurs fois, il y est allé. Mais il a le temps. Là, il est un peu débordé par ses pères. Mais il a le temps. Tu vas pas me dire que le gaullisme, c'est une idéologie. Tu me le dis.
Non, je te le dis pas.
Sans ça, j'aurais...
Mais dis donc, il y a un grand présent dans la pluie d'été, c'est l'absent. L'absent, Dieu.
Oui, mais ils sont tellement nostalgiques de Dieu, que Dieu est là quand même s'il n'est pas là. On sent la nostalgie de Dieu, partout, même chez les enfants. Ce parcours incroyable, à travers l'inconnu comme ça, le connu inconnu, des lieux de jeu. On sent quand même Dieu. Et c'est comme ça qu'il est vécu.
C'est une grande place laissée en blanc.
C'est tout. C'est rien.
Mais ça, tu le disais pas si nettement avant.
J'ai toujours parlé de Dieu. Le mot très souvent là, dans presque tous mes livres, je crois. C'est devenu un nom commun.
Ernesto souffre de son absence ?
Oui. C'est lui qui en est le plus proche. Mais il est toujours renaissant, Ernesto. Je pense qu'il part. Parce qu'il y a un moment où ils vont commencer à vieillir. Les enfants de 5 ans. Même eux. Et c'est à ce moment-là qu'il part. Je pensais très longtemps qu'il voulait se tuer. Maintenant, je ne sais pas.
Tu laisses un peu le doute planer à la fin, quand même.
Moi-même, je doute.
Quand tu dis qu'il est devenu un grand professeur, qui parcourt les universités
étrangères... Oui, mais pour moi, c'est comme s'il était mort, ça.
On le croit pas, quoi. On le croit pas vraiment. On pense que c'est...
Si.
Faut peut-être dire un peu qui il est, Ernesto, parce qu'on en parle comme ça, mais... sans vraiment raconter son histoire. C'est un jeune garçon, sans âge. Hein?
D'un âge indéterminé. Si je donne deux âges, il est entre 15 ans et 27 ans.
Ouais. C'est une fourchette large.
Oui. Les tout-petits, ils ont leur âge. Tous les Italiens, là. Oui.
Et Ernesto,
il n'y a pas un nom français dans tout le livre, sauf le mien. Même le nom de l'éditeur n'est pas français. C'est bien.
C'est la tour de Babel.
Un peu, oui.
Donc Ernesto, qui est un enfant bon, dans une famille d'émigrés à Vitry, un beau jour...
On dit émigré comme une race.
Ouais.
Hein, comme on dit le mot race. T'as oublié qu'elle est polonaise. Non, je sais pas. Gitane. Tout ça mélangé, ça fait rien. Ça fait un étranger. Oui, vas-y, je te coupe.
N'empêche qu'avant de venir te voir, là, j'étais dans un lieu public, comme on dit, et il y avait là quelques représentants des corps de bâtiment français qui, à haute et intelligible voix, nous assénaient un discours raciste absolument épouvantable. Et justement, quand on a en soi La pluie d'été, hein, ce livre dont on doit venir parler avec toi et qu'on entend ce discours, ça fait froid dans le dos quand même. Bah, c'est la France hein, dans les années 80.
Mais qui écoutait ? Qui écoutait ça ?
C'était difficile de ne pas entendre. Alors Ernesto, donc, il n'est pas français. Hein ? Son père, sa mère ne sont pas français.
Je crois qu'ils ne se sont jamais demandé ce qu'ils étaient. Ils sont quand même... Ils sont nés là. C'est tout ce qu'on sait.
Et... Ce garçon qui, manifestement, est très doué, décide un beau jour de ne plus aller à l'école. Il ne veut plus le savoir. Hein, il ne veut rien savoir.
Non, il va à l'école. 10 jours.
Oui, il a compris.
C'est fini. Oui. Mais il a quand même obéi à ses parents. Il y est allé.
Il dit qu'il ne veut pas y aller parce qu'à l'école...
Voilà. On lui apprend des choses qu'il ne sait pas.
Voilà. Oui. Ça, c'est une phrase qui a fait du bruit. Hein. On l'a vu reproduite bien des fois, cette phrase. Elle circule.
Ah, t'as oublié tout à l'heure. Il y a Straub, Jean-Marie Straub, qui a fait un film sur le premier texte. Un film d'un quart d'heure.
Oui.
Non, mais c'est une phrase... C'est une phrase qui n'est intelligible que pour très peu de gens. Mais elle l'est quand même. Le sens, c'est ça. C'est l'antagonisme, connaissance et savoir. Enfin, c'est simple.
L'ignorance, c'est le commencement.
Oui.
Il y a un poète, tu sais, Philippe Jacotet, qui a écrit un livre de poèmes dont le titre est L'ignorant. Mais je sais pas si tu lis les poètes.
Non. Je n'ai pas de poèmes. J'ai tort, d'ailleurs.
Ouais, tu devrais. Hein.
Oui. J'ai des poètes à vous. Ancien. Oui.
Ça bouscule évidemment toutes les valeurs sur lesquelles repose notre culture, notre société, ça. Cette attitude d'Ernesto.
Oui, c'est le plus grave. Il n'y a plus de connaissances.
Quand on ne sait pas, comme Ernesto, Marguerite, on invente. Par exemple, il ne sait pas lire, il va inventer la lecture.
Mais tu connais beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Ils ne lisent pas.
Ils en connaissent, oui.
Ils lisent une chose, la chose qu'ils attendent. Pour beaucoup du peuple, enfin des gens du peuple. C'est malheureusement la première lecture qu'ils ont faite. Après le certificat d'études, si tu veux. Moi, j'étais comme ça dans ce cas-là. Il y avait Pierre Loti, Victor Hugo, pareil. Puis après, j'ai lu. Quand j'étais séparé des parents. Mais avant, non. Est-ce qu'ils savent lire ? Savoir lire, c'est remplacer un vide qui est le vôtre, qui est celui du lecteur, et qui est dans tous les livres. Il y a une place à prendre dans tous mes livres. C'est celle du lecteur. Si tu n'en veux pas, tu lis pas.
Mais Ernesto, le livre dans lequel il va apprendre à lire, enfin, il s'est forgé sa méthode de lecture, comme par hasard, c'est un livre brûlé.
Il est là. C'est celui-là que je fais brûler, qui est là. Le livre en cuir noir, là, sur l'étagère.
Et ce livre...
Je sais pas ce que c'est. C'est en espagnol. Il est immense. Il est aussi gros que l'Ancien Testament. Oui, le livre... bien sûr, c'est la Bible.
Le livre de la création du monde.
Oui. Un peu le livre de... de Renan. C'est l'énorme livre sur la vie de Jésus. C'est l'Ancien Testament. Et aussi le Nouveau, quand même. Je suis très, très marqué par ça.
Depuis longtemps?
Oui. À 18 ans, j'ai eu un amant juif qui n'a eu de cesse que j'ai lu la Bible. Qui m'a lu la Bible. Il ne m'a pas tout lu, mais il en a lu beaucoup. Beaucoup. Et depuis, j'ai toujours eu la Bible avec moi. T'es pas comme ça, toi? Non.
J'ai pas vraiment lu la Bible, non.
On lit pas tout, on lit toujours les mêmes choses.
Dans la pluie d'été, il y a une histoire d'amour aussi. Hein?
Parce que je crois que
l'amour, c'est véritablement le maître mot, là. Et... cette histoire d'amour, c'est aussi une histoire qui bouleverse toutes nos assises, puisque cette histoire d'amour, c'est une histoire entre un frère et une sœur.
Incestueuse, comme on dit, oui. Écoute, c'est une histoire qui est déterminante, pour moi. Toute ma vie... passionnelle, amoureuse, sexuelle, a dépendu de ça. Cet amour qu'il y avait entre mon petit frère et moi. Mon petit frère et moi. Et automatiquement, je la retrouve dans l'amant, il y a beaucoup de livres dans lesquels elle dort. Et bien, elle apparaît. Mais la chose est toujours là, oui.
C'est
ça avait tout remplacé. On ne se parlait jamais. C'est ça l'amour. L'amour est là où il y a l'amour, tu comprends. C'est incroyable que les enfants soient punis. Parce qu'ils se caressent ou bien qu'ils jouent sans mal, quoi.
Tu serais d'accord pour qu'on termine cet entretien en parlant de la musique, parce qu'elle m'a semblé très présente quand même aussi dans ce livre. D'abord parce que à Vitry, les seules rues qui ont un nom sont des noms de musiciens. Et puis la mère d'Ernesto chante aussi des chansons qui...
Elle chante la Neva.
Et aussi la Claire Fontaine.
La Claire Fontaine, c'est des enfants.
Ah, c'est les enfants.
Ils doivent l'entendre aussi dans le village.
Et une chanson d'Alain Souchon aussi.
Oui. Mais à la Claire Fontaine, ça aussi, c'est essentiel pour moi. Quand elle m'a été déportée, tu sais. Entre Paris et Compiègne. On mettait des déportés politiques qui chantaient. Ils ne pouvaient pas chanter la Marseillaise. Ils chantaient à la Clairefontaine. Et dans ma vie, c'est resté un chant sacré, quoi. Tout s'explique. Et c'est un air très beau. Non.
Mais tu penses que la musique permet d'approcher, disons, l'essentiel mieux que les mots?
C'est-à-dire que la musique, c'est le sommet de toute expression. C'est le miracle. L'autre miracle. Le premier miracle, c'est l'enfance. L'état d'enfance. Et le deuxième, c'est la musique. Nous autres, les grands, là, ça n'a aucun intérêt. Je pense à Léa et Paloma. Et Laure, mettons-la dans l'eau. Voilà.
La pluie d'été de Marguerite Duras est publiée chez POL. C'était des bonnes à tout faire, les milliers de Bretonnes qui débarquaient dans les gares de Paris. C'était aussi les colporteurs des petits marchés de campagne, les vendeurs de fils et d'aiguilles et tous les autres. Ceux, des millions, qui n'avaient rien qu'une identité de mort. Le seul souci de ces gens, c'était leur survie. Ne pas mourir de faim, essayer chaque soir de dormir sous un toit. C'était aussi, de temps en temps, au hasard d'une rencontre, parler. Parler du malheur qui leur était commun et de leurs difficultés personnelles. Cela se trouvait arrivé dans les squares, l'été, dans les trains, dans ces cafés des places de marché pleins de monde où il y a toujours de la musique. Sans quoi, disaient ces gens, ils n'auraient pas pu survivre à leur solitude. Ainsi, Marguerite Duras présente-t-elle aujourd'hui cet autre roman, Le Square, publié en 1955 et réédité ces jours-ci en folio, en même temps que La pluie d'été. Il s'agit d'un dialogue en trois temps où deux personnages, une bonne et un colporteur, tentent par la parole de se rencontrer. Parler, c'est la seule façon pour eux, en effet, de ne pas mourir de solitude. Parler pour dire le rien et du même coup le transformer en tout. Parler pour dire le silence de leur vie et du même coup faire entendre leur voix. Comme quoi, à plus de 40 ans de distance, l'écrivain qui nous étonne et nous bouleverse, à chaque livre, a bien de la suite dans les idées. Deux livres donc de Marguerite Duras, La pluie d'été chez POL et Le Square chez Gallimard Collection Folio. Du jour au lendemain, Patrick Antena, Mehdi El Hadj, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 mars 1990.